Bien le bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Chaptal sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes Méline et Séphiz, votre présentatrice et présentateur. On vous emmène dans une émission réalisée par les élèves de terminale du lycée Chaptal dans le cadre d'un club radio.
Dans la France de Macron, l'État s'est condamné à payer 1 euro symbolique. Pourquoi ? La justice le condamne pour ne pas avoir assuré la mise en œuvre d'un programme relatif à l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Un programme donc qui avait pourtant fait l'objet d'une loi votée en juillet 2001, rendant cet enseignement obligatoire de la maternelle jusqu'au lycée.
Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons la présidente d'une des associations ayant porté cette lutte contre l'inaction de l'État sur les sujets liés à l'EVARS, Julia Torlé, présidente de SOS Homophobie. Nous écouterons ensuite une enseignante du lycée Chaptal, Delphine Caron, pour parler des enjeux de l'application concrète d'un programme EVARS au sein d'un établissement scolaire.
Cette émission sera également ponctuée par des chroniques préparées par toute l'équipe autour du plateau. On retracera l'histoire du drapeau LGBT, on reviendra sur l'exposition « Nous autres » présentée au bal autour de l'œuvre de la photographe Donna Gottschalk. Et pour finir, vous découvrirez la musique de David Bowie.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Pour commencer, on vous propose un petit temps historique. Est-ce que vous savez d'où vient le drapeau LGBT ? Non ? Eh bien, on va vous le raconter tout de suite avec Adriana et Méline.
Et voilà la chronique du jour d'Adriana et Méline. Et aujourd'hui, nous intéressons à l'histoire du drapeau LGBT.
Sur la demande d'Harvey Milk, superviseur de la ville de San Francisco et premier élu ouvertement homosexuel de l'histoire de la Californie, Gilbert Baker conçoit le premier drapeau arc-en-ciel lors de la Gay Freedom Parade de San Francisco le 25 juin 1978.
Gilbert Baker était un vétéran gay, artiste, drag queen et activiste. Une anecdote qu'on aime croire est que le drapeau ait été inspiré par la chanson Over the Rainbow dans le film Magicien d'Oz.
De manière plus factuelle, toutes les couleurs du drapeau ont une signification. Le rouge,
la vie,
le jaune,
le soleil,
le bleu,
la sérénité. Et dans les versions les plus récentes des drapeaux LGBT, le blanc représente les victimes du VIH.
Et le marron, la lutte contre le racisme.
Créé en 2018 par Daniel Cassar, le Progress Pride Flag reprend les couleurs du drapeau arc-en-ciel LGBT en y ajoutant des bandes noires, marron, rose, bleu clair et blanche en forme de triangle sur la gauche du drapeau.
Une nouvelle version du drapeau Progress Pride a été créée en 2021 par Valentino Vecchetti. Ces nouvelles couleurs sous forme de flèches montrent le sens vers un monde plus inclusif et plus progressiste et le chemin restant à parcourir pour y arriver. Gilbert Baker a créé une version à 9 bandes du drapeau en mars 2017 en ajoutant une bande de lavande pour symboliser la diversité. Baker a créé le drapeau en réponse aux élections de 2016 où Donald Trump est élu.
En juin 2017, la ville de Philadelphie a adopté une version revisitée du drapeau qui ajoute des rayures noires et brunes au sommet du drapeau standard en 6 couleurs pour attirer l'attention sur les questions des personnes de couleur au sein de la communauté LGBT.
Le drapeau LGBT est aussi présent dans l'espace public. Des passages piétons arc-en-ciel ont été peints dans certains quartiers pour célébrer la Pride et la visibilité LGBT. Certains ont été rendus permanents à Paris. À Nantes, on retrouve des installations d'escaliers peints aux couleurs de l'arc-en-ciel lors d'événements Pride.
Mais aussi dans d'autres pays. Aux États-Unis et plus précisément au Kansas, l'Equality House est une maison décorée en arc-en-ciel en face d'une église connue pour ses messages anti-LGBT, utilisés comme symbole de soutien LGBT. À Seattle, plusieurs intersections sont peintes en arc-en-ciel comme symbole d'inclusion LGBT.
Quant au drapeau hétérosexuel allié, il prend visuellement l'espace réservé à la célébration des personnes LGBT+, dans des contextes comme les marches des fiertés.
Il n'est pas nécessaire de créer un emblème spécifique pour les hétérosexuels alliés. Il suffit d'utiliser le drapeau arc-en-ciel s'ils veulent signaler leur soutien.
Le design du drapeau allié, c'est-à-dire des bandes noires et blanches ainsi qu'un A arc-en-ciel, a parfois été utilisé par des groupes anti-LGBT ou dans des contextes de straight pride, donc des marches hétéros, pour contester les droits LGBT+.
Porter un drapeau allié peut être vu par certains comme un moyen de dire « Hey, regardez-moi, je suis un bon allié », plutôt que d'écouter et soutenir directement la communauté LGBT.
Merci beaucoup Méline et Adriana qui nous ont permis d'en apprendre plus sur ce drapeau qu'on connaît tous mais dont l'origine est peu connue.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, nos journalistes Zoé et Jean reçoivent sur le plateau notre première invitée, Julia Torlé.
Le 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à une carence par rapport à l'enseignement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, prévue par la loi du 4 juillet 2001 dans les établissements scolaires.
Donc, pour nous intéresser à ce fait d'actualité, nous allons interviewer Julia Torlé, présidente et porte-parole de l'association SOS Homophobie, une des associations du collectif Cadécole, qui a saisi l'État sur cette question. Julia Torlé est aussi enseignante et écrivaine. Bonjour Julia Torlé.
Bonjour.
Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste tout d'abord cette réforme liée à l'enseignement de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle?
Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est la première loi que vous avez mentionnée qui date de 2001 et qui prévoyait l'enseignement à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans le cadre scolaire. Et cette première loi de 2001 prévoyait un enseignement à hauteur de 3 heures par an pour chaque élève. Ça, c'était la loi de 2001. Depuis, il y a eu une évolution, c'est qu'il y a un programme, le fameux programme EVARS dont on parle, qui n'existait pas en 2001 et qui a été publié depuis, qui a été publié d'ailleurs après 2023, c'est-à-dire après le moment où les trois associations, SOS Homophobie, le SIDAction et le Planning Familial, ont lancé le contentieux pour assigner l'État à respecter sa propre loi. Donc ce programme a été créé après, mais aujourd'hui il existe.
Ok, merci pour cette réponse. Et donc justement, quelles sont les organisations du collectif Cadécole et comment s'est-il constitué?
Alors, le collectif Cadécole, il regroupe donc SOS Homophobie, le SIDAction et le Planning Familial. L'idée de regrouper ces trois associations, c'était d'avoir des angles différents mais complémentaires sur les questions d'EVARS. C'est-à-dire que le Planning Familial travaille notamment beaucoup sur l'éducation en matière d'égalité des genres, mais aussi sur les questions de santé reproductive et de santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est aussi un champ d'action de SIDAction, qui, lui, alors comme son nom l'indique, travaille beaucoup historiquement sur les questions de VIH-SIDA, mais qui depuis a élargi ses actions sur des questions de prévention au sens large en matière de santé sexuelle. Et de notre côté, SOS Homophobie, nous, on travaille, là encore, comme notre nom l'indique, sur les questions de LGBTI-phobie, mais du coup, partant de là, on travaille surtout essentiellement sur les questions d'égalité de genre.
D'accord, merci beaucoup. Et comment la réforme va-t-elle être appliquée? Quels vont être les contenus des cours? Pour vous, donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour parler en milieu scolaire de ces sujets-là, alors qu'a priori, l'école, ce n'est pas un endroit où on se sentirait le plus à l'aise pour aborder ces questions, surtout avec un prof ou devant toute une classe?
C'est une très bonne question, mais la réponse est tout aussi intéressante. C'est-à-dire que comment ça va se déployer? Alors déjà, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, parce que pour que ça puisse se déployer à l'école, il faut qu'on ait des personnels de l'éducation nationale qui soient formés sur ces questions, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas ce programme. Tout comme on ne s'improvise pas prof d'histoire géo ou prof de physique chimie, il faut une formation pour être capable d'assurer la transmission de ce programme auprès des élèves. Donc ça, c'est une première condition sine qua non. Et ensuite, sur le rôle de l'école quant à cet enseignement, il faut, je crois, regarder l'école telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'école, de façon très traditionnelle, c'est le lieu de transmission des savoirs au sens académique, c'est-à-dire de ce qu'on doit savoir pour construire ensuite toutes ces connaissances, pour aller vers les études supérieures, avoir un métier, etc. Ça, c'est la conception traditionnelle de l'école, et c'est encore vrai, évidemment, en grande partie aujourd'hui. Sauf que la société évolue et qu'on a compris, et heureusement parce que c'est une réalité, que l'école c'est plus que ça. L'école c'est aussi un lieu de vie. C'est un lieu où on se côtoie et donc c'est un lieu qui se doit d'être accueillant pour chacun et chacune, tant les élèves, c'est-à-dire des enfants, des jeunes, des ados, que pour les adultes qui font aussi l'école. Et donc c'est pour ça que c'est assez cohérent finalement que l'école prennent en charge une partie de cette éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, parce que c'est aussi un lieu de vie et que c'est aussi un endroit où on peut transmettre des connaissances. Et sur la question qui est très intéressante de est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est l'endroit où on est à l'aise pour évoquer ces questions-là, alors peut-être que ça va demander un petit temps d'adaptation, parce que oui, effectivement, quand on voit ces enseignants, ces enseignantes, on n'a pas forcément cet élan spontané pour aller parler de ces questions-là. Néanmoins, l'autre endroit où on peut avoir des éléments sur ces thèmes, c'est la famille. Et ce n'est pas toujours facile non plus dans les familles d'aborder ces questions. Donc, c'est à la fois intéressant parce que ça donne une autre porte d'entrée. Et de toute façon, les discussions ne sont pas forcément les mêmes qu'avec la famille. Hein. Mais ça peut apporter des informations que la famille n'apportera pas, parce que c'est parfois délicat. Et puis, parce que l'école, c'est évidemment une institution de l'État. Hein, c'est une institution qui relaie la loi et le contenu de la loi comme n'importe quelle autre institution étatique. Et donc, ça permet de replacer un petit peu le cadre législatif, notamment sur des questions comme les questions du consentement, du droit de chacun chacune, des devoirs de chacun chacune en matière de relations. Et ça aussi, c'est un des rôles de l'école, donc c'est intéressant qu'on ait ça à l'école.
Merci, c'était très précis et très intéressant. Et donc, vous aviez dit que ça allait prendre du temps, mais est-ce que le fait que cette condamnation elle a été médiatisée dans pas mal de médias et même en Europe, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir pousser l'État à s'investir plus dans cette question ?
On l'espère en tout cas. On l'espère parce que oui, cette condamnation, elle a quelque chose de très symbolique. C'est-à-dire que pour décrire les choses stricto sensu, on condamne la loi pour ne, on condamne pardon l'État pour ne pas avoir appliqué sa propre loi, ce qui est quand même un comble. Donc on espère effectivement que cette condamnation va permettre de donner une impulsion et de passer à l'action. Parce que là, pour l'instant, ce qu'a répondu le tribunal, c'est que, effectivement, l'État était coupable de ce qui ne s'est pas passé pendant les 24 dernières années, mais qu'aujourd'hui, les choses avaient changé, puisqu'aujourd'hui, nous avons un programme, le fameux programme EVARS, que nous n'avions pas avant, que nous avons aujourd'hui. Et donc, le tribunal répond aujourd'hui, bon, bah, maintenant, en gros, le problème est réglé, et il suffit d'appliquer le programme. Ce sur quoi nous faisons preuve d'un petit peu plus de méfiance, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'un programme, c'est un premier pas et c'est essentiel. Mais ensuite, ce programme, il faut le mettre en œuvre, il faut l'appliquer. C'est-à-dire qu'il faut que concrètement, il y ait des heures dégagées dans les emplois du temps des élèves, dans les emplois du temps des personnels de l'éducation nationale. Il faut qu'on ait les moyens de mettre ça en œuvre. Il faut que les associations puissent faire leur travail aussi. Donc, il y a tout un faisceau d'éléments qui font qu'il y a une nécessité maintenant à passer à l'action. Donc, on espère que cette condamnation un peu symbolique va pouvoir donner cette impulsion-là.
Merci beaucoup. Et donc, imaginons que tous ces moyens étaient mis en œuvre. Qu'est-ce que vous pensez que ces cours EVARS apporteraient aux nouvelles générations concrètement ?
Ben, moi, j'espère que ça apportera surtout les fondations. C'est-à-dire que quand on parle du programme EVARS, c'est un programme qui se déploie depuis les plus jeunes années de scolarité jusqu'à la fin du lycée. Donc, ça couvre des âges très différents avec évidemment des degrés de perception, de compréhension qui sont très différents. Donc, l'enjeu capital, et c'était bien les débats qui ont animé la conception du programme EVARS, c'est de trouver à chaque fois le bon curseur pour chacun des âges de la vie au moment de la scolarité. Et donc, sur ce que ça peut apporter maintenant que ce programme existe et qu'il est précisément adapté à ces âges de la scolarité, c'est de donner des fondamentaux. Alors, les fondamentaux, ça va être, par exemple, de comprendre la construction sociale du genre et donc de comprendre aussi les injonctions qui vont avec dans la société. Et une fois qu'on a compris ça, évidemment, c'est un terrain privilégié pour travailler sur l'égalité des genres, pour mettre fin au sexisme très ordinaire qui est à peu près partout, au sexisme qui pèse aussi beaucoup, et on ne le dit pas assez, je crois, sur les garçons et les jeunes garçons et les jeunes hommes en construction qui portent aussi très lourdement le poids du sexisme. Donc ça, c'est une chose essentielle pour l'égalité des genres. Et puis, ça apprend les questions de consentement, de relation à l'autre, de la notion du corps qui nous appartient à nous-mêmes, mais qui n'est pas en libre accès pour les autres. C'est aussi essentiel pour lutter contre les questions d'inceste, notamment de violences sexistes et sexuelles, qui sont omniprésentes. Quand vous voyez les chiffres sur l'inceste, on sait que c'est quelque chose d'absolument terrifiant en termes de quantité, ce qui signifie qu'on a des élèves touchés dans toutes les classes. Et donc, si on avait cet enseignement dans toutes les classes, ça veut dire qu'on apporte quelques éléments, alors on l'espère autant que possible, de réaction et de défense pour les élèves, mais au moins on donne des clés et on ouvre une porte pour que les élèves puissent aussi s'exprimer et pour que les élèves puissent comprendre ce qui leur arrive quand ça leur arrive. Ça va donc des choses les plus terribles, comme je parlais il y a un instant des questions d'inceste, mais ça va jusqu'aux questions les plus ordinaires de sexisme ou de discrimination ordinaire. Ça couvre tout cet échange-là.
Donc, que pensez-vous qu'on puisse répondre aux personnes qui jugent que c'est trop tôt de mettre des cours d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle dès la maternelle ?
Alors, on leur répond qu'il faut faire attention à avoir les bonnes informations. C'est-à-dire que quand on parle des plus petites classes, et notamment maternelles et primaires, on parle vraiment d'enfants et pas d'ados, hein, on ne parle pas d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On ne parle que d'éducation à la vie relationnelle et affective. Il n'y a pas le S pour les petits et les petites. Et c'est bien normal. En fait, l'idée, c'est que ce soit adapté. Donc, on ne va évidemment pas parler de sexualité aux plus jeunes parce que ça n'est pas adapté à leur âge. On commence à parler véritablement de sexualité quand ça commence à devenir une réalité pour les élèves. Donc, à la toute fin du collège, au lycée, oui, là, ça devient une réalité. Donc là, effectivement, c'est important d'en parler. Avant, non. Et donc, on ne parle aux plus jeunes que de notions, justement, que j'évoquais, de lien avec son propre corps, de rapport aux autres. Mais alors, ça passe par des choses qui sont très adaptées, notamment, je pense, aux tout-petits de maternelle, de pas se précipiter sur un autre élève pour lui faire un câlin ou un bisou si l'autre élève n'en a pas envie. C'est ça, le début du consentement, en fait. Et après, ça se transforme en questions qui peuvent avoir très à la sexualité ou aux relations de couple chez les grands et grandes élèves. Mais pour les tout-petits, ce sont des choses qui sont vraiment strictement adaptées. Mais donc, sur ce point-là, attention aux fake news, parce qu'on entend à peu près tout et n'importe quoi, y compris parfois de personnes qui sont censées avoir une certaine autorité. Je pense notamment aux personnalités politiques qui sont censées maîtriser le sujet, avoir une certaine autorité. Mais moi aussi, j'ai entendu des choses absolument abominables qui ne sont pas la réalité.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci. Est-ce que vous avez des exemples d'établissements scolaires où ces cours ont été concrètement appliqués ? Et est-ce que vous savez un peu les effets que cela a apporté ? C'est un réponse un peu aux autres questions d'avant. Mais...
Alors, des établissements dans lesquels c'est véritablement appliqué, c'est pour l'instant compliqué parce que le programme était censé se déployer à partir de septembre 2025. On est seulement en décembre, donc on a 3 petits mois de recul et pas beaucoup plus. On sait qu'il y a des établissements qui font en sorte de commencer à l'appliquer avec des personnels qui ont déjà été formés ou sensibilisés ou qui ont une connaissance du sujet par ailleurs et donc qui s'impliquent dans cette application-là. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de voir les effets que ça va avoir tout au long du déploiement. Par contre, si on retourne un peu la question et qu'on travaille en négatif, on voit très bien les effets que ça a sur les élèves qui n'ont pas reçu cette éducation-là. Je pense que vous êtes toutes et tous habitués aux réseaux sociaux. On voit énormément actuellement sur les réseaux sociaux une montée du masculinisme qui est de plus en plus fréquente et de plus en plus répandue. Ce masculinisme-là et le fait que les jeunes soient particulièrement à l'écoute de cette montée du masculinisme, c'est symptomatique. C'est-à-dire que quand on entend aujourd'hui des influenceurs masculinistes dire que c'est plus glorieux, plus respectable pour un garçon de ne pas utiliser de préservatif, voire de l'enlever au milieu du rapport sans prévenir le ou la partenaire et que c'est ça, être un vrai homme, c'est absolument terrifiant. Parce que c'est déjà absolument terrifiant en matière de consentement, mais aussi de transmission d'IST, de VIH-SIDA. Il y a vraiment une question de santé sexuelle là-dessus. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été progressivement au cours des années permis parce que justement, on manquait d'informations. C'est absolument pas rare aujourd'hui d'avoir des ados qui nous disent « Non, mais de toute façon, aujourd'hui, le sida, ça n'existe plus, on risque plus rien. » Il y a un vrai problème de désinformation. Donc, si on regarde en miroir, ce que les générations qui n'ont pas eu cette éducation vivent aujourd'hui, c'est beaucoup dû à ce manque d'informations.
Merci beaucoup pour vos réponses. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et en espérant que ces cours puissent être mis en place prochainement.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Julia Torlet, d'être venue jusqu'ici pour répondre à nos questions avec beaucoup de précision. Et merci à nos deux journalistes, Zoé et Jean. Avant de recevoir notre prochain invité, Delphine Caron, c'est l'heure de la chronique culturelle de Zoé Sana. On vous écoute pour la découverte de Nous Autres, une exposition qui s'est tenue du 20 juin au 16 novembre 2025.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous autres lesbiennes, homosexuelles, marginalisées, longtemps tenues à l'écart des récits officiels. Nous autres dont on a peu montré les visages, peu raconté les histoires. C'est à Sevilla que Donna Kochak et Hélène Gianecchini donnent enfin la lumière dans l'exposition Nous autres.
Voilà comment a été présentée l'exposition Nous autres au Bal à Paris jusqu'au mois de novembre 2025. Cette exposition, c'est une traversée intime et politique. à travers les photographies de Donna Gottschalk, photographe américaine, et les textes d'Hélène Giannettini, écrivaine et critique d'art, Nous Autres raconte des existences queer, lesbiennes, militantes, souvent absentes des archives et de l'histoire officielle.
Les images de Donna Gottschalk ont été prises dès la fin des années 1960, au cœur des communautés lesbiennes et queer de New York et de San Francisco. Ce ne sont pas des photos spectaculaires, ce sont des scènes de vie, des regards, des gestes de tendresse, des moments de lutte, des corps qui s'aiment et résistent. Donna Gottschalk photographie ses proches, ses amis, son monde. Elle ne documente pas les autres, elle photographie les siens.
Et c'est là que le titre prend tout son sens. Nous autres, c'est un nous collectif, fragile mais puissant. Un nous qui affirme « nous étions là, nous avons vécu, aimé, lutté ». Les textes d'Hélène Giannettini accompagnent ces images sans les expliquer. Ils les prolongent, les questionnent, leur donnent une voix. Ils interrogent aussi la mémoire. Pourquoi ces images ont été invisibles si longtemps? Et qui décide de ce qui mérite d'être conservé, d'être montré, d'être transmis?
L'exposition nous rappelle que l'intime est politique, que photographier l'amour, l'amitié, la solidarité, c'est déjà résister. Nous autres n'est pas seulement une exposition sur le passé, c'est une archive vivante, nécessaire, qui résonne encore aujourd'hui. Une invitation à regarder autrement et surtout à ne pas oublier.
Merci beaucoup Zoé et Sana pour la présentation du travail de trois femmes de trois générations. C'est désormais l'heure d'accueillir notre seconde invitée, Delphine Caron, professeure d'anglais au lycée Chaptal, et nos deux journalistes, Sana et Adriana.
Delphine Caron, enseignante d'anglais au lycée Chaptal dans le 8e arrondissement de Paris, qui s'occupe de l'AGIS, l'Alliance Genre, Identité, Sexualité, un dispositif exclusif à l'Académie de Paris, un lieu pour les personnes LGBT et leurs alliés. Bonjour Madame Caron, tout d'abord, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va bien, merci de m'avoir invitée en tout cas.
Super. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le dispositif AGIS, l'Alliance Genre, Identité, Sexualité ?
Alors en effet, ça n'existe pour l'instant que dans l'Académie de Paris. Ce sont des alliances qui sont créées soit par les élèves à leur demande, soit par des référents établissements qui sont labellisés « lutte contre les LGBT-phobies ». Et ces alliances sont ouvertes à tous. Les élèves qui se reconnaissent comme étant LGBTQIA+, les alliés et les personnes adultes sont là pour s'assurer que tout va bien, mais ne sont pas forcément moteurs dans les projets.
Merci beaucoup pour cette précision. Et donc vous, quelles ont été vos motivations pour mettre en place une AGIS au lycée Chaptal ? Est-ce que vous avez dû suivre une formation particulière ou pas du tout ?
Alors, ce n'était pas requis. Il y a quelques années, donc l'AGIS s'est ouvert, je crois, l'année 2019-2020. C'était à l'initiative d'une direction de l'établissement qui était sensible. On a pu aussi bénéficier du soutien de Audrey Gelman, qui enseigne dans cet établissement et qui est en charge de l'observatoire de la lutte contre les discriminations faites aux LGBT. Et voilà, des propositions ont été faites et moi, ça m'a semblé tout à fait logique de répondre favorablement, ne serait-ce que parce qu'on entend très facilement dans le lycée moult petites insultes LGBT-phobes qui sont soi-disant des blagues et qui sont très banales. Et c'est quelque chose contre lequel j'aimerais bien qu'on agisse, sans mauvais jeu de mots.
Merci beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que cette expérience avec l'AGIS vous a appris ?
Je ne suis pas que professeure dans la vie et je ne suis pas que professeure au lycée Chaptal non plus. Ce rôle de référente me tient à cœur. Je pense que ça m'a permis aussi de faire émerger un constat local qui était justement chaque année de demander aux élèves membres de l'AGIS « Avez-vous bénéficié ?» des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, qui ne s'appelait pas encore EVARS. Et au cours de toute leur scolarité, les élèves souvent nous répondaient « Non, je n'ai eu aucune séance, ni au collège, ni au lycée. Ah si, peut-être une fois la prof de SVT. » Et ça se soldait à ça. Et il y avait toujours une demande de la part des élèves pour avoir plus d'informations, plus de représentations aussi dans les cours qui étaient donnés, qui étaient hétéronormés au possible, qui étaient surtout axés sur la reproduction et aussi sur les alertes pour les MST, les IST, pardon. Voilà, c'était uniquement sous cet angle-là s'il y avait une information qui était donnée.
Je rajoute juste quelque chose, mais Est-ce que malgré cette distinction enseignante-personne, il vous arrive parfois de vous servir de votre rôle d'enseignante pour faire passer des messages qui ont un lien justement avec votre place dans l'association AGIS?
Oui, totalement. Moi, c'est vrai qu'à travers des cours, notamment en ce moment dans les cours d'anglais actuel dans votre classe, on est en train de se poser des questions sur l'inclusion des athlètes transgenres. Donc, c'est totalement pour moi naturel de intégrer dans mes cours toute la société en général, tous les questionnements qui la traversent, et aussi offrir une représentation la plus large possible des personnes, quelles qu'elles soient. Et puis aussi de mettre mes élèves en situation de pouvoir être qui ils sont et être tranquillement ce qu'ils sont au lycée, ce qui n'est pas une mince affaire.
Merci beaucoup. Une autre question, enfin, vous le savez sûrement déjà, le 2 décembre 2025, l'État a été condamné pour avoir manqué à son obligation d'organiser les séances d'enseignement d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle prévue par la loi du 4 juillet 2001 dans les établissements d'enseignement. Est-ce que vous pensez que les séances d'information et d'éducation à la sexualité sont bénéfiques pour les élèves et pourquoi est-ce qu'elles le seraient ?
Je pense que c'est effectivement un dû que l'on doit aux jeunes. Le bénéfice, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas évident de discuter dans sa famille, ou bien dans sa famille, on peut discuter peut-être et avoir un certain angle, une certaine représentation, mais ça ne saurait suffire. Et jusqu'ici, ce qu'on a pu constater, c'était un recours pour l'information à la sexualité qui était quasiment uniquement guidé vers le porno, le recours à des images pornographiques violentes et qui a transformé, je pense, en profondeur la perception de la sexualité par les adolescents. Je pense tout simplement aussi que pouvoir être à l'aise dans sa vie d'adulte, former des citoyens, c'est le rôle de l'école et que donc ça fait pleinement partie des missions de l'école.
Merci beaucoup. Et maintenant, du coup, on voulait vous demander pourquoi l'application de la réforme EVARS semble donc être si compliquée à être mise en place selon vous.
C'est compliqué, c'était compliqué pour la précédente et je pense que ça va être très compliqué là aussi parce que cette mission n'est pas clairement fléchée. On ne sait pas trop qui doit délivrer ces séances. Et j'ai pu constater moi-même qu'on se renvoie un petit peu ce sujet tel une patate chaude. Non, c'est plutôt aux collègues de Sciences et Vie de la Terre. Non, c'est plutôt aux infirmières. Non, c'est plutôt un intervenant extérieur. Du coup, c'est un peu tout le monde et donc c'est un petit peu personne. Il y a des frilosités aussi parce que certaines familles, associations de parents d'élèves ou mouvements politiques ont récupéré ce sujet pour faire pression pour que certaines parties du programme ne soient pas dans le programme ou ne soient pas enseignées, où on met une certaine pression pour qu'il y ait un angle dans les séances. Donc ça, c'est forcément des choses qui ne sont pas acceptables. Mais c'est vrai qu'au sein même du corps enseignant, ça peut poser problème. Et certains estiment que ce n'est en effet pas la place de l'école, le rôle de l'école, que d'organiser ces séances-là.
Merci. Et du coup, maintenant, que faudrait-il, selon vous, pour que l'éducation à la sexualité soit réellement prise au sérieux dans les établissements scolaires ?
Des moyens de formation. Alors, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire. Il y a quand même pas mal de personnel qui vont être formés cette année. Par la suite, je pense qu'il faut aussi du bon vouloir au niveau local et aussi au niveau académique, dans le sens où ces séances, elles vont être sur des heures de cours et que toute heure de cours qui saute est tout de suite comptabilisée comme étant des heures qui n'ont pas été délivrées. Donc c'est toujours un petit peu complexe. Il faut dégager du temps. Je pense que c'est nécessaire. 3 heures dans une année, c'est quand même pas bien lourd et ça va pouvoir changer beaucoup de choses, je pense, dans les vies des ados et notamment des jeunes LGBTQIA+, qui ne se voient pas représentés dans beaucoup de cours. Et c'est peut-être l'occasion d'avoir aussi des informations sur des questions qui se posent et pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup de réponses pour le moment. Voilà.
Et pour conclure, quel message est-ce que vous aimeriez faire passer aux élèves et plus largement à l'éducation nationale concernant l'importance des dispositifs comme l'AGIS et l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Je pense que concernant les VARS, le message il est assez clair. C'est un programme, donc il doit être appliqué. Le jugement qui a été rendu est quand même assez remarquable par rapport à ça. Concernant les AGIS, ça reste à la discrétion des établissements. Personne n'est obligé d'avoir une AGIS. Néanmoins, il doit y avoir dans chaque établissement un référent sur les questions des discriminations LGBT, mais aussi de l'inclusion, du bien-être des personnels et des élèves LGBT. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème encore. On ne se met pas toujours à la place de ce que l'on n'est pas. Et donc, dans un monde hétéronormé, l'école est très hétéronormée, il est parfois difficile de percevoir que certains élèves ne sont pas du tout représentés dans le cadre scolaire qui est pourtant là où ils passent vraiment le plus clair de leur semaine.
Écoutez, merci beaucoup Madame Caron pour toutes vos réponses à nos questions.
Merci à vous.
Très agréable et nécessaire, je pense, d'entendre vos interventions.
Merci beaucoup.
Merci Sana, merci Adriana et merci à notre professeure Madame Caron pour ses explications. Il est temps d'écouter notre dernière chronique, une chronique haute en musique sur David Bowie, présentée par Jean et ses fils.
Alors, bonjour Jean. Aujourd'hui, nous allons parler de David Bowie, un auteur, compositeur, interprète, musicien britannique des années 70. Alors, pourquoi allons-nous parler de lui aujourd'hui ?
Alors, tout d'abord, c'est un pionnier de la pop culture, notamment célèbre pour la cover de son album Aladdin Sane, sur laquelle il arbore un éclair rouge sur son visage. Et en effet, il était connu pour ses maquillages. Il se différencie des autres artistes, car à cette époque, l'homosexualité est un sujet plutôt tabou, notamment en Grande-Bretagne.
D'accord. Et pourquoi et comment a-t-il commencé sa carrière musicale ?
Donc, dès son adolescence, il est très attiré par le rock'n'roll américain, avec des artistes comme Elvis Presley ou Little Richard. C'est d'ailleurs à cette époque que commence à apparaître le rock en Angleterre. Donc, la musique a été un moyen pour lui de se créer des personnages qui lui ont permis de s'exprimer. Et donc, pour répondre à ta question, il a formé son premier groupe de musique à 15 ans, soit en 1962.
D'accord, donc très jeune. Et est-ce que même après sa mort, il continue d'inspirer les gens de par la vie qu'il a vécue et la musique qu'il a faite ?
Donc effectivement, David Bowie est mort le 10 janvier 2016, mais il reste pourtant l'un des artistes les plus écoutés de sa génération et a inspiré de nombreux groupes comme Queen ou Radiohead. Il fait également partie de la fierté du Royaume-Uni.
Eh bien, merci à toi Jean. Et nous allons maintenant écouter un extrait de The Gin Genies, une de ses musiques les plus célèbres, issue de son album Aladdin Sane, sorti en 1973.
Like a reptile, she love him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, let go his hand, he says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear, poor little greenie.
Merci Jean et ses fils de nous avoir fait redécouvrir cette icône depuis les années 70, David Bowie. C'est malheureusement la fin de notre émission La Voix de Chaptal. On sait que c'est très triste, mais toute bonne chose a une fin.
Alors, un gros merci à nos invités, Julia Torlet et Delphine Caron, et notre équipe au Club Radio, Zoé, Sana, Adriana, Jean, ses fils et Méline.
C'était La Voix de Chaptal, présentée par Méline Maillard et ses fils Fourier.
On vous souhaite une bonne fin de journée sur Radio Campus Paris.
Générique !